C'est Carton Fameuse qui parle. Bonjour à tous. Nous sommes réunis pour le séminaire Quiz Talak. Nous avons beaucoup de personnes présentes sur cet appel. Et je passerai la parole à Gisela pour qu'elle s'occupe des affaires normales des appels. Merci Carton. Nous n'allons pas passer l'appel, mais on va ajouter cette liste d'appels aux notes de l'appel à la fin. Je vous rappelle que nous avons interprétation de français et d'espagnol, donc je vous souviens de dire vos noms avant de parler pour que les interprètes vous identifient sur les autres canaux et pour la transcription. Attendez, s'il vous plaît, jusqu'à la fin de la présentation des orateurs pour faire vos questions. Donc, je vous souviens en même temps de mettre vos lignes en muet si vous n'allez pas parler. Rappelez-vous donc de mettre vos écouteurs en muet aussi. Et si vous n'allez pas parler, mettez en muet vos micros. Merci, Carton, et je te repasse la parole. Merci Gisela, c'est Carton Samuels qui parle. Bonjour à tous encore une fois, je suis Carton Samuels pour la transcription. Je suis le président du groupe WHOIS, du groupe de travail WHOIS de Adlarge et membre d'ALAC. Notre but pour cet appel et nous allons passer les notes de discussion autour de ces sujets à la fin. Nous allons commencer donc avec les aspects basiques de WHOIS. On a des contrats et des accords de politique de consensus. ICANN a exigé que les registres et les bureaux d'enregistrement rassemblent et publient les données WHOIS. Donc, dans le contexte d'ICANN, WHOIS est un service de directeur. Le WHOIS au niveau des bureaux d'enregistrement est inclus dans les accords RAA, dans deux des RAA en vigueur, et il dit ce que WHOIS devrait être et comment ça devrait se passer. Les bureaux d'enregistrement doivent rassembler les données WHOIS selon nos contrats et doivent publier ces données à travers des services ou alors sur un site interactif. Que ce soit clair donc que les bureaux d'enregistrement rassemblent beaucoup d'informations des bureaux d'enregistrement et c'est une exigence qui adresse simplement quelques aspects spécifiques des données qui s'appellent les sets WHOIS, les sets de données WHOIS. Et c'est dans l'article 3.3 des RAA. La liste est donc ainsi. Ça exige au bureau d'enregistrement qui rassemble et publie les données de nom enregistré, le nom du registre et le nom secondaire du registre, l'identité du registrant, les données WHOIS, la date d'échéance de cet enregistrement, le nom et l'adresse postale de la personne qui a enregistré ce nom, l'email, le numéro de téléphone, le fax, le contact technique et des données ou des coordonnées pour le contact administratif. Il s'agit des données WHOIS actuelles. Cet ensemble de données WHOIS devrait être disponible pour le public général. C'est la politique en vigueur. Au niveau des registres, les registres doivent rassembler certaines pièces de données aussi. Il y a deux sortes de données qui sont rassemblées pour les registres. Il y a des registres PIN qui ne rassemblent que les données d'enregistrement et de la personne qui a fait l'enregistrement. Et puis, il y a des registres avec des informations sur les personnes qui ont fait l'enregistrement. On a des contacts administratifs et techniques pour l'enregistrement. C'est des registres épais. Si vous voyez au niveau du bureau d'enregistrement, il y a beaucoup d'exigences et un problème de conformité. Mais les données rassemblées et qui devraient être publiées sont une obligation contractuelle. Et donc, ça a trait à la façon dont cette exigence devrait être contrôlée du point de vue de la conformité. Ça, c'est le long d'une période de temps et les données du registre et du bureau d'enregistrement sont utilisées ou elles ont été utilisées pour d'autres fins qu'elles ne devraient savoir l'être, mais qu'elles ne devraient avoir été. Mais ça va changer. Je veux que vous voyez le rapport pour la GNSO des exigences au bureau d'enregistrement qui a été rédigé par David Sotelo et Steve Cheng. C'est un très bon panorama du WHIS. Et ils ont spécifié les utilisations correctes de WHIS et les abus de WHIS. Mais ce qui est important ici, et que vous sachiez que l'objectif original des données WHIS n'est que d'avoir un service de direction pour que ce soit utilisé seulement à ce fin et pas pour ce dont on se servit. Le problème de WHIS a été très sérieux à ICANN. Ça nous préoccupe et je voudrais qu'on passe maintenant à ce que l'on a vu dans ce dernier rapport. Vous savez qu'on a fait une affirmation d'engagement qui est un accord entre ICANN et le gouvernement des États-Unis sur ce qui devrait se passer pour tous ces aspects qui n'étaient pas contrôlés par le gouvernement. Le AOC demande à ICANN de réviser ce problème de WHIS. Et donc, on a créé une équipe de révision et on a passé beaucoup de temps à examiner ce problème de WHIS et on a donc rédigé un rapport, c'est ce rapport final, qui fournissait 16 recommandations pour WHIS. Entre ces 16 recommandations, la première était que WHIS devrait être stratégique et que ça devrait donc être traité ou abordé en tant que question stratégique. Une partie du board n'était pas d'accord là-dessus parce que selon une résolution du directoire en novembre de l'année dernière, ils se sont mis d'accord et ils ont demandé au PDG de former un comité qui examine de façon compréhensive ce problème de WHIS. Et ils ont résolu en même temps que les politiques WHIS actuelles devraient être mises en vigueur et respectées. C'était une résolution du directoire. Les nouveaux accords pour le registre ont déjà été discutés pendant quelque temps et on a décidé qu'il devrait y avoir certaines modifications. Et l'une de ces modifications qu'ils ont évaluées est la précision Ruiz. On sait qu'il y a eu des plaintes par rapport à Ruiz et au fait que ce n'est pas précis. Donc le nouvel RAA, qui est en train d'être négocié en ce moment, a fait une approche et évalué la façon d'améliorer la précision. Je voudrais que vous fassiez attention aux nouvelles négociations autour de ces nouveaux documents auxquels vous pouvez accéder sur le site web. Les nouveaux accords de registre pour les nouveaux GTLD devraient être des registres épais parce que ça devrait être simplement sur des informations de registre. Et si vous voyez le point 2.5 de l'accord, vous verrez quelles sont les exigences pour les nouveaux GTLD ainsi que les spécifications pour cet accord qui vont détailler comment devrait être l'ensemble des accords de données Ruiz pour les nouveaux registres qui vont être inclus dans le modèle EP. Alors, comment continuer? Le groupe de travail expert, duquel je fais partie, est prêt pour commencer à travailler. Et particulièrement pour At-Large, le plus haut niveau d'attention va être mis sur les données Ruiz qui sont disponibles pour le public. Il s'agit de la question At-Large. Donc, il demande donc que les utilisateurs finaux ne se voient pas en désavantage par rapport aux données Ruiz publiées. Il nous semble que c'est l'élément le plus important pour l'accord At-Large. On essaiera donc de voir qu'est-ce qui va se passer avec les nouveaux GTLD. Je ne sais pas si vous m'entendez parce que j'ai perdu les connexions. Allô?
Allô? Allô?
Allô, vous m'entendez?
Allô?
Oui, Carlton, on t'entend. Merci. Ma connexion n'est pas bonne, je ne vois pas connecter. Non, c'est bon, on ne te répond pas parce qu'on est en muet. Bien, dit Carlson. Alors, on reprend ce qu'on était en train de dire. L'intérêt d'At-Large est d'avoir des données Ruiz disponibles pour le public. Et en tant que membre du groupe de travail de révision de Ruiz, je voudrais assurer que ce soit préservé et que ce soit les informations que j'ai reçues en tant que représentant d'At-Large. Je passe maintenant la parole à Jim Galvin de SSAC qui vient parler de Ruiz dans le contexte de la stabilité et la sécurité. Jim? C'est Jim Galvin qui prend la parole. Vous m'entendez? Apparemment, non. Oui, Jim, je t'entends, mais je ne sais pas si le reste du monde t'entend, dit Carlson. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis déconnecté de Adobe Connect. Tout le monde dit oui sur le chat, donc je vais continuer. Et supposer que tout va bien. Alors, je vous remercie de cette occasion. Je vais parler de certaines déclarations de SAC par rapport à Ruiz. Et je commencerai par parler du document SAC 51, un document où SAC parlait de la taxonomie et la structure de Ruiz. Le but de ce document était de montrer que les gens se servent du terme Ruiz pour parler de trois choses différentes en fait. Et notre but était d'identifier tout cela de façon indépendante et d'identifier de quoi ils parlaient, à qui ils parlaient. Je vois qu'ils ont publié SAC 54, vous venez de l'ouvrir sur l'écran, mais je parle de SAC 51 en fait ici. Donc ces trois choses sont les données d'enregistrement, les protocoles et les services de directoire. Oui, c'est un terme dont on devrait se servir simplement pour parler du protocole. Les données d'enregistrement, bien sûr, sont l'ensemble d'éléments dont on... qu'on rassemble pour donner un nom de domaine. Et puis, on a des services de directoire où on discute l'accès et qui accède à quoi et pourquoi. Donc, je passe maintenant à parler des données d'enregistrement de nom de domaine. C'est le SAC 54. Et SAC a essayé de présenter cette question du propos ou du but de ces données d'enregistrement. Et lorsqu'on mentionne cette question, on se demande quel est le modèle dont on devrait se servir. SAC a décidé qu'au moins une façon de décider pourquoi on a des données d'enregistrement est de suggérer qu'on les a pour soutenir la vie utile des noms de domaine. Bien sûr, on a d'autres buts possibles, mais c'était la base à partir de laquelle on a choisi de travailler pour pouvoir avoir un endroit concret pour créer le modèle que l'on a proposé pour représenter les données d'enregistrement. On a vu qu'il y a de différentes sortes d'enregistrements et les deux catégories les plus grandes sont les GTLD et les CCTLD. Et même dans cette division, les données rassemblées et la raison pour laquelle on les rassemble varie. Normalement, c'est pour avoir davantage de cohérence entre les GTLD et davantage de variété entre les CCTLD. On a proposé un modèle pour représenter les données d'enregistrement sur la base des événements de la vie utile d'un nom de domaine. Le document qu'on a produit par la suite était SAC 55 et c'était les commentaires de SAC par rapport aux commentaires de l'équipe de révision ou d'études des révisions. On a créé un document et on l'a passé aux commentaires de l'équipe Ruiz. Et je vais donc reprendre dans le sens contraire. Je vais parler de ce qui s'est passé. Et on a pris les recommandations de l'équipe de révision de Ruiz et on a fait des commentaires par rapport à ces recommandations. Et on a rassemblé des commentaires en, selon leurs priorités. Verrez ce document et ça contient pourquoi on a dit ce qu'on a dit et qu'est-ce qu'on a dit. Mais on a soutenu, bien sûr, les recommandations de l'équipe de révision Ruiz. On a pris spécifiquement une recommandation qui nous semble doit être abordée pour soutenir toutes ces discussions de Ruiz, entre guillemets, et des discussions par rapport au but des données d'enregistrement. Et la question qui donc surgit d'ici et qui devrait accéder à quoi et pourquoi. On a créé des documents qui sont intéressants, mais qu'on ne va pas mentionner maintenant. Je suis sûre que vous avez lu ce document si vous avez fait partie des discussions de Ruiz depuis longtemps. Et je sais que vous serez reconnaissant de cette analogie. Mais je pense que cette recommandation, en fait, répond à cette question des données et au service de directoire par rapport à qui devrait accéder et pourquoi. C'est l'une des motivations principales pour ce groupe que ICANN a créé pour aborder exactement ces questions. Et donc, comme membre de SAC, je dirais qu'on apprécie ce geste d'ICANN d'aborder ce problème. Et bien sûr, on essaie de faire un suivi de près de tout ce travail. Et mon dernier commentaire, en fait, vise à vous faire savoir que, comme vous avez fait dans SAC 51 par rapport à la structure et la taxonomie de Ruiz, SAC est en train de préparer un commentaire sur la taxonomie et la structure pour la validation de données d'enregistrement qu'on espère pouvoir faciliter avec un meilleur cadre des discussions qui sont en train d'être menées et des données, bien sûr, pour aborder directement la question technique de ce que c'est de valider des données, pourquoi on le fait, et puis pour vous donner des exemples sur comment ça se fait et comment ça peut être effectif et fonctionner bien. J'espère que ce sera disponible dans peu de temps. Je suis sûre que ça se fera avant la réunion de Beijing ou alors lors de la réunion de Beijing. On essaie d'avoir de bonnes informations au lieu que de se presser pour arriver à une date d'échéance. Mais je voulais que vous sachiez cela. Simplement un panorama qu'on explore. On va publier un commentaire qu'on espère sera utile pour la communauté. Donc voilà les commentaires et les déclarations de SAC. Je pourrai répondre à vos questions dans le moment donné. Merci.
Personne pas est en train de parler, on ne vous entend pas. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, oui, nous vous entendons maintenant. Merci, Jim. Maintenant, nous sommes dans le point des interventions des différents participants. La liste des participants serait à droite de l'écran. Maintenant, je ne vois rien. Mais les participants sont listés là-bas. Est-ce que nous n'allons pas faire l'appel de la liste? Merci. Est-ce que vous ne m'entendez pas? Oui, oui, nous vous entendons, oui. Merci.
Okay. So
Alors. D'une manière un peu plus discriminative dans ce que nous faisons en termes de services directoires. J'ai l'opinion de chercher un équilibre entre ce qu'il faut faire pour protéger la sécurité et la stabilité de l'Internet et ce qu'il faut faire pour prévenir l'abus. Quand nous voyons ce que nous pouvons faire avec Quiz, nous pouvons faire une impression de toute notre donnée privée, comme bureau d'enregistrement, c'est mon nom, mon adresse, mon numéro de téléphone, etc. Ou nous pouvons cacher derrière un profil ou un service de privacité qui ne sont pas contrôlés, ou nous pouvons attendre. Ce sont les élections, les options que le bureau d'enregistrement a. Mentir, ça n'aide pas si nous voulons protéger la stabilité et la sécurité de l'Internet. S'il y a un problème, il faut trouver avoir l'option de trouver quelqu'un. Cela permet des actions problématiques comme des délits, etc. Quand nous parlons de privacité dans l'ensemble des données, je ne parle seulement de la privacité des données personnelles. Ce qui reste le plus important et que nous devons aborder. Mais je parle aussi de groupes en danger. Ce qui inclut les refuges des abuseurs, les groupes d'advocacy publique. J'ai des personnes qui étaient préoccupées par rapport à l'accès, à qui est la mère, qui est à la charge des groupes des enfants de l'école. Ce type d'information doit rester privé pour que la police ait le droit légitime à cette information. Ce qui ne doit pas être nécessairement disponible pour tout le monde. En termes de questions de privacité, nous voyons maintenant beaucoup de pays qui commencent à développer des lois et des régulations qui protègent les données personnelles et qui même protègent les données d'un certain groupe d'âge. Mais le WHOIS n'est pas un élément, un mécanisme, un procès très sensible pour faire cela. Même par rapport au problème, si nous sommes à enregistrer dans un pays qui a des normes de protection de données, il faut On a l'accès, mais on a l'accès seulement, si est-ce que je comprends bien, après qu'on a été processé pour un délit. Alors, I can, cela n'est pas une provision, qui n'est pas vraiment quelque chose qui est en train de se passer. Il faut organiser beaucoup de tribunaux en Europe afin qu'ils peuvent avoir accès à tout cela. Comment est-ce que nous faisons honneur à ces régulations de privacité qui sont en train d'être créées? La dernière chose que je voulais mentionner est qu'est-ce que se passe par rapport aux questions des juridictions. Nous avons eu un événement où on a décidé par rapport au nouveau GTLD. C'est un problème qui doit être résolu en termes de privacité et de services directoires. Dans la transition pour les registraires incumbents, les personnes qui pouvaient avoir protection dans la directive européenne ou dans une autre directive nationale qui peuvent toutes les protections possibles quand les données de registration seraient sous le contrôle du bureau d'enregistrement qui serait dans une autre juridiction. C'est un problème que les gens vont nier parce qu'il n'y a aucun bureau d'enregistrement qui défend cette régulation de privacité. Je pense que nous avons beaucoup à faire par rapport à la protection et aux outils. Et je suis très contente que nous sommes en train de nous occuper de cela. Je pense que nous avons besoin d'un processus de politique pour ICANN et pour la privacité, pour manifester, oui, et peut-être le prochain élément serait d'aborder ce problème complexe. La dernière chose que je voulais dire, c'est que ICANN n'a pas pu résoudre le problème de WIS qui vient depuis toujours, qui continue depuis toujours. Nous n'avons pas résolu le conflit entre le droit d'être protégé par la police, le droit de la privacité et le droit de la propriété privée dans les autres domaines. Le fait que nous commençons à le faire ici est déjà un élément positif. Merci beaucoup. Vous avez 5 minutes pour parler. Est-ce que vous pouvez vous maintenir dans les 5 minutes que vous avez été assignées, s'il vous plaît? Ça va bien, Carlton. Est-ce que vous m'entendez? Je suis Ivan Libovet. Je suis Ivan. Je suis à Toronto. Je suis le vice-président de la région Amérique du Nord, RALO. NARALO, je vais parler d'une affaire de confiance privée. Ceci, ICANN s'occuper des régulations mineures. Ce qui n'est pas précis pour moi, c'est est une source très importante de l'embarras pour ICANN et pour les bureaux d'enregistrement. C'est quelque chose qu'on devrait supposer, et ce qui n'est pas le cas. Je veux séparer les problèmes de liberté d'accès à l'information et au contenu. Dans le niveau théorique, ICANN, le nom de domaine devrait être un commodity. Ils peuvent être transférés. Leur usage comme un point d'identité a été diminué. C'est une raison pour pouvoir avoir information de contenu viable et utile. C'est très important. En même temps, je pense qu'il y a moins de liaisons entre les noms de domaine et la privacité que ce que l'on pense souvent. Par exemple, je suis à la charge de ce qu'on nomme normalement groupe de groupe de danger. Ce sont des gens qui font des blogs qui pourraient être en danger si leur identité était trouvée. Mais ils peuvent parler, nous pouvons les protéger. Le système de noms de domaine n'est pas une partie des droits d'avoir liberté d'expression. Avoir un nom de domaine, ce n'est pas un élément nécessaire ou obligatoire pour parler. Le fait que les domaines de troisième niveau sont utilisés dans ICANN est une condamnation de la capacité d'utiliser les noms de domaine et les subnoms de domaine pour protéger la privacité . Alors, il y a quelques problèmes ici. Comme je dis déjà, ma préoccupation principale est que la privacité doit être protégée. La privacité doit être protégée jusqu'au point de permettre aux individus d'avoir de l'information précise ou de l'information qui n'est pas divulguée universellement. Par exemple, le domaine CIA, qui a le mécanisme d'avoir des standards différents d'accès public pour les domaines publics. C'est ironique qu'un domaine qui est un très bon exemple pour les bureaux d'enregistrement soit un qui n'est pas dirigé par ICANN. Je passe la parole au prochain participant. Merci, Evan. La prochaine est Michele Nilan. Michele, vous avez la parole. Michele, ne vous entendons pas. Est-ce que vous êtes muet? Vous êtes muet? Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui. Je m'excuse. Je crois que j'étais muet. Je m'excuse. Brièvement, Michele, je suis registrée de l'Irlande. Bien sûr, c'est dans l'Union européenne. De mon point de vue, je apprécie les commentaires que mes intéressés ont fait par rapport à la différence entre les données de WHOIS par rapport à ce qu'on montre. Notre perspective est que dans le moment actuel, il y a un grand problème. parce que nous sommes obligés de quoi accomplir, de respecter les lois européennes, de violer les lois européennes. Et que nous sommes dans un problème légal, bien sûr. Je suis un membre du groupe d'experts de service directoire. C'est une version plus brève et WG. Mais nous devons avoir une sigle pour cela, pour un groupe d'ALAC. Il faut aborder ce problème par rapport à la divulgation des données et la recollection de données. Nous voyons que nos clients veulent enregistrer le nom de domaine pour de différentes raisons, pour des entreprises, pour des blogs personnels, pour avoir des libertés d'expression, comme Avery vient de mentionner. Je dois être en désaccord, mais comme Evan dit, nous ne pouvons jamais être en accord avec cela. Nous pouvons discuter pour des jours entiers et nous ne arriverons jamais à un accord. Mais c'est comme les données qu'on accueille en Europe et dans notre partie du monde, ce qu'on oblige le registre à faire, les données de contact pour chaque registreur, cela contribue à un certain degré d'intrusion. Ça, c'est par rapport au terme « transition ». Personnellement, je n'aime pas ce terme parce que c'est trop binaire. C'est soit quelque chose d'imprécis ou il ne l'est pas. Quelque chose peut être imprécis. Par exemple, si je dois changer d'adresse, si je dois déménager, par combien de temps est-ce que les données sont imprécises? Ce qui est par rapport à l'internalisation, à la globalisation. Beaucoup de nous devons donner des codes postels parce que tout le monde suppose que tout le pays du monde utilise des codes postels, mais ce qui n'est pas le cas. Comme Jordi, qui était dans d'autres cas, il y a une différence entre les données de Whois pour les sites personnels et que pour les sites entreprises. Il y a des différences en Europe, au moins, où il faudrait faire la différence. Maintenant, ce n'est pas le cas. Je voudrais avoir chaque changement dans la politique et dans le contrat qui puisse avancer, qui reflète pour refléter la loi nationale dans la même manière. Ce que je veux dire, on ne devrait pas aller au tribunal, à la justice, pour chaque jugement. La situation actuelle est tout au contraire. Ce que je crois est très problématique. Et je ne veux pas que ma compagnie soit la première à entamer une cause massive. On m'a rappelé que j'ai 5 minutes, alors je veux passer la parole à Alan. Merci, Michele. Le prochain dans la liste est Alan Kimber. Alan, vous avez la parole. Merci, Carlton. Je vais faire quelques commentaires sur ce que mes prédécesseurs ont mentionné. Je suis d'accord par rapport à la privacité. Je ne suis pas d'accord sur d'autres aspects. Je ne comprends pas pourquoi les données, s'ils sont dans les bureaux d'enregistrement, s'ils sont publics, quel est le problème si nous changeons de juridiction? Mais nous allons adresser ça dans les groupes de travail. J'ai un commentaire à faire sur la difficulté d'aborder le problème de privacité. Je trouve que c'est très curieux parce que quelques registraires ont des provisionnements pour la protection des individus. Selon la loi européenne, il y a déjà des implémentations. Ce qu'on a fait a été différent, mais il y a eu des implémentations qui continueront à avancer. Il faut optimiser tout cela, comme l'a dit Michele. On ne devrait pas être dans la justice à cause de cela. Ce que je veux dire maintenant, c'est parler de la privacité. Le groupe de révision de Ruiz a trouvé un groupe de définition utile. C'est que le service de privacité masque l'information de contact. Quelques informations de contact, mais pas le nom. On inclut le nom correct, et cela est visible sur Ruiz, mais pas l'information de contact. Ils ont le nom, l'information de contact, tout cela sur le registraire, mais ce qui est caché pour le public. Ce concept existe depuis toujours. Tout le monde, les avocats, les corporations, les noms des domaines pour les clients, c'est très normal. Partout dans le monde, c'était une pratique courante. Même avant que l'ICANN existe. Le concept a été très utilisé par le RA. Si on enregistre quelqu'un, on a une responsabilité complète pour cela. Mais nous savons que le UDRT a eu des problèmes. Il y a des personnes qui sont persécutées pour manquer à la loi de marque. ICANN, malheureusement, connaît ce problème depuis beaucoup d'années et n'a rien fait. Je pense qu'un des problèmes que dans le procès, il faudrait aborder des problèmes qu'on connaît, mais qu'on a peur d'aborder. Je n'ai pas la solution, mais il faudra y penser parce que ce n'est pas le seul cas de problème où tout le monde connaît le problème, mais que personne ne veut l'aborder. Je suis très sûre qu'il faut aborder le problème de privacité et des services de proxy. Il faudrait y penser par rapport au conseil d'implémentation. Je n'ai pas beaucoup plus de temps. Alors, j'attends vos questions. Merci beaucoup.
Merci Alan. Comme d'habitude, très raisonnable. La prochaine personne sur la liste est Holly Reich. Holly, vous avez la parole, dit Carlton.
Merci Carlton.
C'est Holly qui parle.
Je voudrais parler de la précision.
Et on a des conflits parfois de précision. On devrait ajouter ces concepts. Et les enregistrants doivent donc fournir leurs données. On a déjà mentionné les RAA et dans le point qui mentionne le point de vue de l'enregistrant et du bureau d'enregistrement, et on a des conflits. On essaie de se servir de ces données selon la qualité. C'est Gisela qui prend la parole. Pardon, Holly, je m'excuse. On voudrait pas avoir à t'interrompre, mais on peut pas t'interpréter. Les interprètes ont du mal à comprendre ce que tu dis. Est-ce que tu pourrais essayer de parler un peu plus fort? Pardon, je vais essayer de parler mieux. 3.7.2 DRAA est le point qui parle des questions commerciales. Et on a besoin de voir quels sont les termes et de travailler sur la précision. Et on a fait des concessions. Je pense qu'on devrait donc peut-être penser à ça lorsqu'on parle de précision et de qualité de données. Le problème, en fait, est sur le point 3.7.8, qui fait que ce soit très difficile de respecter ces exigences par rapport à la précision. Et je voudrais revenir sur ce que Amri Doria a dit, et c'est la possibilité de fournir de différents accès aux données et de l'accès à la précision. Les règles de l'accès, qui pourraient être une solution, mais me semble un aspect compliqué. J'espérais avoir une solution. C'est mon moment de le mentionner. Et on a des problèmes donc de précision et de qualité de données. Merci, Carlton. Merci, Holly. On passe maintenant au participant suivant, c'est Patrick Van de Valle. Patrick, vous avez la parole. Bonjour, Carlton. Bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui. Je suis Patrick Van de Valle, un ancien membre du comité de visibilité de ALAC et du comité de sécurité, stabilité et résilience. Je voudrais dire que je suis d'accord avec ce qu'ont dit les autres participants. Je voudrais que vous sachiez simplement que je suis complètement d'accord avec Avery Doria, Michele et Nylon et leurs commentaires. Je voudrais simplement ajouter un commentaire, et c'est qu'il y a certaines personnes qui ont déjà parlé de vie privée. Et je voudrais dire qu'en fait, c'est clair, on est dans une situation difficile aujourd'hui parce que ces directives sont un peu vieilles, si je ne me trompe. Elles ont été rédigées en 1997 et c'était bien avant que l'Internet ne soit présent partout. Et les directives actuelles sont régulées et interprétées de façon un peu différente aujourd'hui. C'est-à-dire que .ca et .org appartiennent à certains régimes, le .gov aussi, bien sûr, .gov.org. Et ce régime dépend selon le pays, c'est assez compliqué, donc. De le suivre, parce qu'on n'a pas d'organisation générale qui coordonne et qui mesure ces utilisations. Cela va changer, bien sûr, dans quelques mois, parce qu'on a travaillé sur ces protections de données. Et il y a de nouvelles lois qui vont entrer en vigueur. La Commission européenne va aussi prendre des mesures
contre les pays, même les pays du tiers-monde, tels qu'ils font pour la concurrence. Ça veut dire qu'il va y avoir une approche globale et que les nouvelles lois vont permettre à toutes les compagnies qui processent des données d'individus européens de processer aussi les données de tous les autres individus. C'est-à-dire que la Commission européenne pourrait prendre des mesures contre un bureau d'enregistrement des États-Unis s'il a des clients européens ou des GTL même s'ils ne sont pas situés en Europe, etc. Donc ça va être une innovation intéressante. Je voudrais aussi dire qu'on a parlé particulièrement sur le chat. Hein. On a parlé des données WIS, qui devrait les avoir. Et la question que je voudrais poser à ce point-là est parce qu'il y a des personnes qui ont dit que tout le monde devrait avoir l'accès complet parce qu'ils ont un intérêt légitime. Et donc la question qu'on devrait répondre, je crois, est ce que c'est que d'avoir un intérêt légitime. On n'a pas de bonne réponse pour cette question et votre réponse va dépendre de qui vous êtes. Mais bien sûr, dans le cadre du remplacement du protocole WIS, il y aura la possibilité de différencier l'accès aux données. Et je pense que ce serait intéressant de commencer dès maintenant à définir quelles sont les sortes d'usages que l'on devrait accepter, quels sont les genres de données qu'on devrait partager, et aussi, bien sûr, de créer un mécanisme mutuel externe de ce que serait un intérêt légitime et des groupes qui pourraient accéder à ces données. Et je voudrais dire aussi et souligner que la raison pour laquelle on a des études de l'identification de données WIS, c'est qu'on a un tiers des enregistrants qui viennent du secteur privé. Et c'est intéressant parce que souvent, on a plusieurs personnes qui parlent d'individus qui enregistrent des noms de domaine et ils disent que c'est une petite proportion, que ce n'est pas significatif, mais il me semble qu'un tiers des noms de domaine est une proportion assez haute. Et ICANN a rassemblé à peu près $1,5 million de dollars l'année dernière à travers les demandes de registre. Ces demandes sont payées par l'enregistrant à la fin, même si le bureau d'enregistrement et les registres sont ceux qui payent. Mais $70 million de dollars était le total et $23 million de dollars venaient du secteur des utilisateurs privés. Donc ma question est, si ces personnes ne peuvent pas réviser les $23 million de dollars qui ont rentré dans les coffres d'ICANN, comment est-ce qu'ils vont faire pour tout contrôler? Et puis, en dépit du budget et du poids d'ICANN, ils ne savent pas ce qu'ils vont devoir représenter à travers la GNSO et ALAC. Et finalement, jusqu'à la prochaine révision des RAA, ICANN devrait essayer de nous fournir un contrôle sur le WIS. Il s'agit d'un problème très sérieux. On a plusieurs études que les fournisseurs de proxy et les fournisseurs externes pourraient se voir dans de gros problèmes pour accéder aux données. Et c'est ça le problème. En fait, si on veut que les personnes se servent de ce système qu'on fournit, la communauté doit être capable d'avoir un mécanisme pour accéder à ces données à travers le fournisseur de vie privée après un certain processus, bien sûr. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je recevrai vos questions si vous en avez à la fin de la discussion. Merci, Patrick. C'est Carlton qui prend la parole. Et le présentateur de cette section suivante est Gartrone. Gartrone qui prend la parole. Merci, Carlton. Merci à tous de m'avoir invité à parler. Je voudrais mentionner quelque chose que vous voulez peut-être pas entendre. Et c'est qu'on parle souvent du rôle d'ICANN ou de l'abstinence d'ICANN sur ce problème. Et en fait, ce n'est pas, on ne peut pas exiger cela. On a entendu parler de l'article 3.7.8. Et l'équipe de révision de Ruiz a suivi le même raisonnement. Et c'est que le contrat, en fait, ne peut pas être exigé en termes de précision. Parce qu'on ne peut pas contrôler la façon dont les bureaux d'enregistrement travaillent. On peut seulement faire un suivi de la précision de leur service. Et donc, on devrait avoir plusieurs options pour répondre à cette question. Et on l'a vu dans certaines études, et c'est que ce contrat ne peut pas être exigé. Dans ce cas-là, on n'a pas assez de poids pour ces questions ou ces réponses de ce qui est exigé et ce qui ne l'est pas. Même si l'on peut définir quelque chose comme accessible, on ne peut pas ignorer les problèmes. Et donc, le contrat tel qu'il est aujourd'hui ne peut pas être exigé. Donc, on pourrait faire que tout soit 100% précis et ça va toujours pas fonctionner peut-être. En même temps, au-delà des utilisateurs commerciaux ou des individus qui enregistrent des noms de domaine, qui veulent avoir une certaine vie privée et qui exigent que l'on respecte leur vie privée, il faut qu'on sache qu'il y a une question de propriété des noms de domaine qui varie et qui a un gros poids par rapport à une question ou une autre. On peut dire qu'il y a des personnes qui enregistrent de mauvais noms de domaine pour de mauvaises raisons, c'est-à-dire, et on peut dire que c'est un abus ou un usage frauduleux, et ils se servent des DNS pour de différentes raisons, pour de différents buts. Il s'agit des personnes qui, lorsque l'on parle de l'imprécision de Ruiz, sont celles qui se préoccupent le plus. Ces personnes qui travaillent dans l'industrie de la sécurité d'Internet ou dans des agences de respect de la loi et en général n'ont pas d'intérêt à cet aspect Boy Scout de la précision. On parle de groupes de personnes très exclusives, très intellectuelles qui veulent se servir de Ruiz en tant qu'outil. Et cela a trait au fait qu'ICANN semble ne pas vouloir exiger ces règles telles qu'elles sont. Et c'est un gros problème. Dans les commentaires des autres participants, ils ont mentionné cette question. Et en fait, le problème ici est que, dans plusieurs cas, le problème est que pour les bureaux d'enregistrement, c'est un outil d'avoir ces données. Je ne veux pas être trop direct, mais c'est ça mon opinion. Merci. Gars, c'est Carlton qui parle. En ce moment, on va répondre aux questions et bien sûr avoir des discussions avec les personnes qui écoutent. Je voudrais parler davantage de deux questions qu'on a mentionnées. C'est l'accès différencié aux données. Je voudrais savoir quelles sont les opinions de tout le monde. Et aussi le respect de la loi. Et si cet article 3.7.8 est suffisant pour exiger le respect de la loi. Je ne suis pas très bon avec Adobe Connect, donc Matt va me dire s'il lève la main. Je vous passe la parole, posez vos questions.
La première main levée est celle de Yaobi. Yaobi, vous avez la parole.
Merci, c'est Yaobi qui parle. Vous m'entendez bien?
Oui, je vous entends.
J'ai plusieurs questions, mais d'abord je vais faire un commentaire. Par rapport à un webinaire qu'on a organisé, ce webinaire est très important pour tous les utilisateurs. Parce que si l'on veut parler des problèmes, on ne peut pas suivre un contrat. Les gens veulent avoir un site web. Vous m'entendez mieux? Vous avez de l'interférence, dit Carlton. Ça va mieux là, dit Harvey. Oui, un peu mieux, dit Carlton. On va dire par exemple, et on parle d'un contrat d'un an que ces personnes donnent aux utilisateurs, et à la fin de l'année, leur contrat est fini. On a besoin d'avoir davantage d'informations pour les utilisateurs finaux. Et c'est un problème très important. Oui, vas-y, aidez Quentin. Oui, la question technique est que les personnes sont celles qui composent le WHOIS. Parce qu'une personne passe d'un contrat à un autre, on a cette question de données. La deuxième question porte sur ce que vous avez mentionné au début. Et c'est comment les nouveaux GTLD en contact avec les registres et les personnes et le CMB. Et on ne sait pas comment cela va affecter les personnes. ICANN travaille avec des entreprises et des personnes privées, donc on devrait essayer de voir comment faire pour travailler avec tous. Je ne vais pas répondre à ce point-là, dit Carlton, parce que je pense que quelqu'un d'autre va répondre dans les différentes questions. Alors on a maintenant Lutz Donahack. Lutz, vous avez la parole.
Oui, merci, dit Lutz. En fait, je voulais simplement signaler que les problèmes principaux que nous avons avec ce système est qu'il est un peu improvisé. Ce n'est pas un système professionnel. On veut faire une base de données centralisée et on essaie de fournir de l'accès pour le respect de la loi. Et on veut des solutions détaillées, des lois détaillées pour ces problèmes, des lois sur la vie privée qui pourraient être votées dans les prochains mois. On voudrait avoir des entrées dans la base de données et se servir de plein de données. Et on voudrait que les données soient correctes dans une base de données centralisée. Donc le problème central en ce moment est que notre base de données WHOIS n'est pas centralisée justement. Et donc la solution ici est très simple. C'est qu'on a un registre WHOIS très fin. Et si on a un contrat avec ces bureaux et ces registres, on devrait leur exiger qu'ils rassemblent les données et ils les passent après. Donc on ne va pas avoir un service WHOIS pour ces registraires, ces bureaux d'enregistrement. Et même si on avait ce système, on pourrait bien sûr appliquer des lois locales à chaque système. Donc on n'a pas de problème pour gérer ou stimuler le rôle des lois dans une base de données centralisée. Mais on pourrait bien sûr penser à avoir une situation différente pour localiser et centraliser les données. Pensez-y. Bien, merci Lutz, dit Carton. Lutz parle de l'accès différencié un peu et du respect de la loi, bien sûr. Mais il parle aussi du lien entre les données et le registre et la précision des données. Oui, c'était très intéressant. J'espère qu'on puisse avancer là-dessus. Et en ce moment, c'est Dan Blumenthal qui va parler. Don Blumenthal qui parle. En fait, je n'ai plus la main levée, Carlton. Merci. Bien. Merci, Don, dit Carlton. Alors, Holly, tu suis. Holly Reich qui prend la parole. Merci, Carlton. Bon, j'ai vu sur notre agenda, notre ordre du jour, quel était le sujet qui avait été donné à chacun. Et on avait les mots précision de données et exigence de contrat qui peuvent être pratiques et commerciales de ce point de vue. Merci Carlton. Merci Oli, dit Carlton. Donc elle vient de parler du modèle d'enregistrement des noms de domaine. Je pense qu'on pourrait y reparler après que Michele ait fait sa question. Vous m'entendez? Oui, on s'entend, Michele. Merci, c'est Michele Neyland qui parle. Je suis un peu mal à l'aise avec ce muet et toutes ces touches pour tout faire. La question de Holly était comment on pourrait interpréter cette clause?
La manière dont je le vois, c'est très simple. Quelqu'un présente une plainte par rapport à la précision aux chercheurs. Ce sniff test, pour ceux qui ne parlent pas anglais, c'est une manière à laquelle de dire cette plainte est-elle légitime ou est-ce que la personne perd son temps? Quand on voit une grande quantité de clients et d'usagers, on s'habitue à avoir des consultations ou des queries. Raisonnablement, ce qu'on ferait, ce serait de rechercher, de voir si c'est clairement incorrect ou si nous pouvons encompasser, englober toutes les plaintes, ce qui ne peut pas être fait dans aucun contrat de ICANN, parce que si c'est un contrat entre deux tiers parties, une partie dit c'est à moi, l'autre partie dit non, c'est à moi. C'est un exemple comme le couple marié qui commence à faire des affaires ensemble et 6 mois après, ils divorcent. Qu'est-ce qui se passe avec l'entreprise? Dans la perspective de l'entreprise, ceux qui reçoivent des notifications, des plaintes, c'est quand l'un se plaint, quand l'autre se plaint, je ne veux pas entamer un argument dans ce domaine, mais dans le cas des bureaux d'enregistrement, si quelque chose n'est pas exigeable, si nous pouvons agir, nous le ferons. Dans la discussion qualité par rapport à la prédiction, bon, c'est une question très valide. Si je crie mal mon nom, mon prénom, c'est imprécis, mais est-ce une grande imprécision? Il faut avoir une approche raisonnable par rapport à cela. Par rapport à la question de Yovi, par rapport à l'accréditation, à ICANN, pour l'instant, il n'y a pas, si je comprends bien, pour vérifier contre les prévisions, les régulations locales de privacité. ICANN est l'entité qui sollicite l'accréditation. Quelques opérateurs d'enregistrement peuvent faire des contrôles de validation additionnels avant de permettre de se connecter. Par exemple, VeriSign, qui fait un procès de vérification et validation avec le bureau d'enregistrement. Et il nous demande d'enregistrer quelque chose, de vérifier quelque chose, par exemple des questions comme d'où est-ce que vous obtenez votre argent, ou est-ce que vous êtes en violation d'une loi fédérale. Je pense à la practicité, pas à l'interprétation pédantique. Comme je l'ai déjà dit, si je reçois une plainte sérieuse, ça veut dire que je vais vérifier s'il y a quelque chose qui est imprécis ou non. Comme bureau d'enregistrement, je veux vérifier que les registraires nous aient donné des données complètes où nous allons leur demander de corriger les données incorrectes. Cela pourrait inclure l'élimination du nom de domaine. De mon point de vue, nous voulons être payés, nous ne voulons pas avoir de problème. Nous ne voulons pas avoir de problème parce que ça nous donne plus de mal de tête. Quelle est la différence d'argent? 1 euro, 2 euros, ça, ce n'est pas où nous faisons notre argent. Je crois que j'ai tout répondu. Ça va. Merci, Michele. Nous avons 8 minutes. Olivier, il nous manque Olivier. 2 minutes. Nous devons être très, 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 très bien. Fatima, vous avez la parole. Fatima, est-ce que Fatima parle à travers l'interprète? Pendant que nous attendons Fatima, Jim, est-ce que vous êtes là? Jim, est-ce que vous pouvez répondre à la question des nombres de registrations par rapport au nom de domaine? Oui, merci. Je viens de taper quelques références brièvement. DNRD, ça veut dire donner des enregistrements des noms de domaine. SAC 51, où nous avons créé la taxonomie WHOIS pour diviser la discussion en 3 parties. Cela parle d'un modèle de comment représenter les données d'enregistrement selon ce modèle. Merci. Merci, Jim. Fatima, est-ce que vous êtes disponible maintenant? Les interprètes ne peuvent pas entendre Fatima, mais elle est là. Merci. Alain, est-ce que vous pouvez parler du problème de proxy de privacité? Il y a une petite différence entre service de proxy et service de privacité. Est-ce que vous pouvez l'aborder? Je pense que je l'ai déjà fait, mais je vais répéter. Les gens utilisent des termes comme des synonymes, mais les groupes ont trouvé des différentes définitions pour les deux types de services. Je ne sais pas s'ils ont les bonnes définitions, mais il y a une définition utile. Les services de privacité garantissent la privacité, ils peuvent occulter quelques parties d'informations. Ils peuvent donner une partie du mot de passe, mais pas l'adresse d'Internet ou l'email. Les services de proxy cachent aussi qui l'on est. J'ai un commentaire additionnel. Ce n'est pas seulement le cas de l'Afrique, mais il y a des preuves de fournisseurs qui donnent un site Internet et une année après, ils disparaissent. Typiquement, dans ce cas, ce qui se passe, c'est que le fournisseur de services Internet, sachant que le client n'était pas exactement un service de proxy, ils peuvent faire ce qu'ils veulent à la fin. Ils peuvent le canceller ou le vendre, etc. C'est en partie une question d'éducation des usagers. Et c'est une question de manque de clarté pour le registreur. Registrante. Nous parlons d'un registrant qui n'a pas donné suffisamment de données, d'informations. Le problème des services de proxy peut être accrédité, peut être résolu si nous faisons bien notre travail. Aussi, pour la convenance du client, c'est un problème. Il faudra travailler beaucoup pour le résoudre. Merci. Merci, Alain. Mm-hmm. Je crois que c'est important que les personnes pensent à la différence. Nous avons une question ici. Je vais demander à Olivier de prendre la parole. Nous ne vous écoutons pas, Olivier. Il est disparu. Peut-être vous pouvez continuer. Fatima, elle voulait faire une question dans le chat. Je ne peux pas le voir. Je ne vois pas le SC. Je pense que Fatima peut parler maintenant à travers l'interprète. Fatima, est-ce que vous pouvez parler, si vous m'entendez? Oui, continuez. Merci, je suis Fatima. Merci d'abord pour ce webinaire qui est très intéressant et je m'excuse de ne pas avoir participé avant. J'avais un problème avec ma ligne. Je voulais faire poser une question par rapport à la position des données. Mais quelle est? Je m'excuse si je me suis perdue, mais à qui est la responsabilité dans ce domaine d'aspect? Qui est responsable de déterminer quelles données sont opérées ou pas? C'est ma question. Merci. Merci, Fatima. Michael, est-ce que vous pouvez prendre une minute pour répondre? Fatima, si vous m'entendez. C'est une responsabilité partagée. C'est une manière de le dire. Finalement, c'est la responsabilité du registrant qui serait dans les, parmi les droits et responsabilités de registrer. Si vous êtes le registreur, vous devez maintenir votre information actualisée. La responsabilité partagée est que, comme registreur, si nous avons un problème avec Ruiz, nous devons faire quelque chose par rapport à cela. Cass et moi serons ici dans un problème. Je pense que je n'ai pas de chance, alors je vais perdre ce match. Il y a un certain degré de responsabilité partagée, mais c'est la responsabilité majeure est dans les registres. Donc, si on pense à certains aspects de la RAA, ce que nous voudrons voir, c'est ce qui est acceptable pour les registraires dans la nouvelle RAA. Mais je voudrais étudier la manière dont ICANN a rédigé le RAA pour les nouveaux GDLD. Les temps devraient être un peu plus courts, mais merci. Nous avons 10 minutes de plus pour cet appel. Je voudrais vous informer cela et maintenant je donne la parole à Olivier. Merci, Carlton. J'ai une très petite question pour tous, pour vous tous. Est-ce que vous pouvez me montrer dans le contrat où ICANN m'a donné l'autorité pour éliminer un registraire qui ne donne pas d'informations précises? Merci. Est-ce que quelqu'un veut répondre? Je vais répondre parce que je pense que Carl voulait que je réponde. Je pense que je ne suis pas une avocate, mais nos avocats peut-être veulent répondre, mais même si ce n'est pas une question de violation spécifique, maintenant je parle en termes très généraux. Si je vois une grande quantité de plaintes par rapport à un registreur spécifique, je pense que je pourrais avertir ce registreur et ce registreur aurait des problèmes spécifiques. Si ICANN va envoyer une notification de violation parce que notre portfolio de centaines de milliers ou de millions de noms humains où il y a eu beaucoup d'élimination de noms humains, ce serait pas raisonnable de demander à ICANN d'envoyer une notification de violation. Je ne serai jamais d'accord avec cela. Jamais. Michele, merci. Vous avez 3 minutes. Je vais demander à Olivier de prendre la parole. Merci, Carlton. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bon. Je pense que ça a été un appel très intéressant. Je voudrais parler de nos prochains pas. À partir de maintenant, il y a quelques aspects. Le premier, c'est un bref commentaire. L'Adlage Cruiz, l'étude d'identification Adlage Cruiz. Carlton, c'est que Alak voudrait, si Alak voudrait envoyer quelque chose, on pourrait l'inclure. Si Alak pourrait contribuer quelque chose, oui, je pense que nous devons faire une réponse pour cela. Merci, Carlton. Olivier, effectivement, pour Sœur Alak finit le 8 mars. Cela serait la première version pour participer dans la réunion de printemps. C'est une chose qui est immédiate. L'autre chose dont il faut s'occuper, c'est la question parallèle de la réunion d'experts pour le service des directoires. Il y a beaucoup de membres qui ont été élus. Nous avons 3-2 dans cet appel. Carlton ou Michele devraient dire quelque chose sur cela. J'espère que vous allez faire des rapports faire à ce groupe par rapport à cela. C'est Carlton. Nous avons décidé que l'information du groupe d'experts sera inclue dans la Wikipage. Nous avons déjà créé la Wikipage. Nous espérons cela. L'idée, c'est que il y aura quelques éléments qu'on devra connaître pour le groupe de travail. C'est notre obligation de nous assurer que le at-large soit bien informé sur les éléments du comité . Une autre chose, Carlton. Cet appel est enregistré et interprété. Alors, nous avons l'enregistrement de cet appel, mais aussi nous avons le chat qui a beaucoup d'informations et des informations très intéressantes. Tout cela est en train d'être enregistré. Je pense que c'est un point très intéressant. Merci, Olivier. Alain, vous avez la dernière parole. Merci beaucoup. Je voulais parler de ce que Olivier a dit dans le début de la conversation. C'est que les gens, ce que peuvent faire l'argent. L'objectif de ce séminaire a été accompli parce qu'il y a eu beaucoup de participants ici. Il y aura beaucoup d'activités sur Huiz et les affaires liées. Le groupe de travail d'experts aura beaucoup d'informations de ICANN, de leurs organisations ou des groupes de participants et des individus. Il y aura eu un ou plus de PDPs. Il y a déjà des PDPs qui sont déjà en train d'être créés. Ma déclaration finale est qu'il faut participer, il faut lire les choses qui vont être publiées. Si vous êtes d'accord, dites-le. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le aussi. Il faudrait avoir des choses plus productives dans le futur. Nous avons déjà eu beaucoup de temps pour ce tissu. Il ne faut pas attendre des années et des années. Il faut participer. Merci. Merci, Alain. Il faut ajouter. Est-ce que Olivier veut ajouter quelque chose? Merci, Carlton. 10 secondes pour dire à tous qu'il y a des réunions, une réunion à Beijing. Heidi l'a inclus dans le chat. C'est c'est le mercredi de 15h. Il y a beaucoup de personnes participant à cet appel. J'espère qu'il y aura la même quantité de participants à Beijing ou une plus grande quantité. Merci, Olivier. Je comprends que nous avons un groupe de travail ouvert. Nous vous invitons et nous enverrons des informations. Tout le monde est bienvenu à participer. Merci à tous. L'autre déclaration d'Alak a été inclue dans l'agenda d'ordre du jour. Vous verrez ce que nous devons faire. C'est important que vous le lisiez. Je vous encourage à lire les déclarations à l'AC, parce que la plupart de ce qu'on vient de dicter ici sera là. Il est 11h40 à Los Angeles, c'est très tôt. Je voudrais remercier tout le monde qui a participé, les personnels, les interprètes. Je vous remercie. Je n'ai pas vu le chat room. Merci, Max, de m'avoir aidé. J'espère de vous voir tous à la future. Et ce webinaire est fini, complété. Merci.